Ivan Tourguéniev, Incendie en mer. C'était au mois de mai 1838. Je me trouvais, avec beaucoup d'autres passagers, sur le bateau le Nicolas Ier, qui faisait le trajet entre Saint-Pétersbourg et Lübeck. Comme, dans ce temps-là, les chemins de fer étaient encore peu florissants, tous les voyageurs prenaient la route de mer. Par cette même raison, beaucoup d'entre eux emmenaient leurs chaises de poste pour continuer leur voyage en Allemagne, en France, etc. Nous avions, je m'en souviens, 28 voitures de maître. Nous étions bien 280 passagers, dont une vingtaine d'enfants. J'étais très jeune alors, et ne souffrant pas du mal de mer, je m'amusais beaucoup de toutes les nouvelles impressions. Il y avait à bord quelques dames, remarquablement belles ou jolies. La plupart sont mortes, hélas. C'était la première fois que ma mère me laissait partir seule, et j'avais dû lui jurer de me conduire sagement, et surtout de ne pas toucher aux cartes. Et ce fut précisément cette dernière promesse qui fut enfreinte la première. Un soir, en particulier, il y avait grande réunion dans le salon commun, entre autres plusieurs banquiers bien connus à Pétersbourg. Ils jouaient chaque soir à la banque, sorte de lansquenet, et les pièces d'or, qu'on voyait alors plus souvent qu'à présent, faisaient un cliquetis étourdissant. L'un de ces messieurs, voyant que je me tenais à l'écart et n'en sachant pas la raison, me proposa brusquement de prendre part à son jeu. Comme, avec la naïveté de mes 18 ans, je lui expliquai la cause de mon abstention, il partit d'un éclat de rire, et s'adressant à ses compagnons, il s'écria qu'il avait trouvé un trésor, un jeune homme n'ayant jamais touché une carte, et par cela même prédestiné à avoir une chance énorme, inouïe, une vraie chance d'innocent. Je ne sais comment cela se fit, mais 10 minutes plus tard, j'étais à la table de jeu, les cartes plein la main, ayant une part assurée et jouant comme un fou. Il faut avouer que le vieux proverbe n'avait pas menti. L'argent venait à moi à flots. 2 monceaux d'or s'élevaient sur la table, des 2 côtés de mes mains tremblantes et couvertes de sueur. Le banquier qui m'avait entraîné ne cessait de me pousser, de m'exciter. Vrai, je croyais ma fortune faite. Tout à coup, la porte du salon s'ouvre toute grande, une dame s'y précipite, crie d'une voix éperdue et mourante. « Le feu est au bâtiment !» et tombe épanouie sur le sofa. Ce fut comme une commotion violente. Chacun s'élança de sa place, l'or, l'argent, les billets de banque roulèrent, s'éparpillèrent de tous côtés, et nous nous précipitâmes tous dehors. Comment n'avions-nous pas remarqué plus tôt la fumée qui nous envahissait déjà? Je n'y conçois rien. L'escalier en était déjà plein. Des reflets d'un rouge épais, d'un rouge de charbon de terre, éclataient par-ci, par-là. En un clin d'œil, tout le monde fut sur le pont. 2 larges tourbillons de fumée montaient des 2 côtés de la cheminée et le long des mâts, et un vacarme effroyable s'éleva pour ne plus cesser. Ce fut un désordre indicible. On sentait que le sentiment de la conservation s'était violemment emparé de tous ces êtres humains, de moi tout le premier. Je me rappelle avoir saisi un matelot par le bras et de lui avoir promis 10 000 roubles de la part de ma mère s'il parvenait à me sauver. Le matelot, naturellement, ne pouvait prendre mes paroles au sérieux. Il se dégagea de mon étreinte, et moi-même je n'insistais pas, voyant bien que ce que je disais n'avait pas le sens commun. Du reste, ce que je voyais autour de moi n'en avait guère plus. On a bien raison de dire que rien n'égale le tragique, si ce n'est le comique, d'un naufrage en mer. Par exemple, un riche propriétaire, saisi de terreur, rampait à terre en baisant frénétiquement le plancher. Puis, comme l'eau abondamment jetée dans les ouvertures des magasins à charbon avait momentanément dompté la violence des flammes, Il se redressa de toute sa hauteur et s'écria d'une voix de tonnerre « Homme de peu de foi, avez-vous pu croire que notre Dieu, le Dieu des Russes, nous abandonnerait ?» Mais à l'instant même, les flammes jetèrent une poussée plus vive et le pauvre homme, de beaucoup de foi, retomba à quatre pattes et se remit à baiser le plancher. Un général, l'œil hagard, ne cessait de crier « Il faut envoyer un courrier à l'empereur !» On lui a envoyé un courrier lors de la révolte des colonies militaires, où j'étais, moi, en personne, et cela a servi à sauver quelques-uns d'entre nous. Un monsieur, le parapluie à la main, se mit tout à coup à crever avec fureur un mauvais petit portrait à l'huile attaché à son chevalet, qui se trouvait là parmi les bagages, en perçant avec la pointe de son parapluie 5 trous à la place des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Il accompagnait cette destruction d'exclamations « À quoi cela peut-il servir maintenant ?» Et cette toile ne lui appartenait pas. Un gros personnage, tout inondé de larmes, ayant l'air d'un brasseur allemand, ne cessait de vociférer d'une voix larmoyante « Capitaine ! Capitaine !» Et lorsque le capitaine, impatienté, le saisit à la fin par le collet de son habit et lui cria « Eh bien, quoi, je suis le capitaine, voyons, que voulez-vous » Le gros personnage le regarda d'un air hébété et se remit à geindre « Capitaine !» Ce fut pourtant ce capitaine qui nous sauva la vie à tous. Premièrement, en changeant au dernier moment, où l'on pouvait encore entrer dans la machine, la direction de notre navire, qui, en filant tout droit sur Lübeck, au lieu de virer brusquement sur la côte, aurait infailliblement brûlé avant d'arriver au port. Et deuxièmement, en ordonnant aux matelots de tirer leur coutelas et de faire impitoyablement main basse sur toute personne qui essaierait de toucher à l'une des 2 chaloupes qui nous restaient encore, les autres ayant chaviré par l'inexpérience des passagers qui avaient voulu les mettre à la mer. Les matelots, Danois pour la plupart, avec leurs figures énergiques et froides et le reflet presque sanguinolent des flammes sur les lames de leurs couteaux, inspiraient un respect involontaire. Il faisait une assez forte bourrasque. Elle fut encore augmentée par l'incendie qui hurlait dans un grand tiers du bâtiment. Je dois avouer, n'en déplaise à mon sexe, que les femmes, dans cette circonstance, montrèrent plus de courage que la plupart des hommes. Pâles et blanches, la nuit les avait surprises dans leur lit. Elles n'avaient guère que leur couverture pour vêtements. Et tout incrédule que j'étais déjà alors, elles me semblèrent des anges descendus du ciel pour nous faire honte et nous donner du cœur. Du reste, il y eut aussi des hommes qui montrèrent de la bravoure. Je me rappelle surtout un monsieur D. F., notre ex-ambassadeur de Russie à Copenhague. Il avait ôté ses souliers, sa cravate, son veston, dont il avait attaché les manches sur la poitrine. Et, assis sur un gros câble tendu, les pieds ballants, il fumait tranquillement son cigare et nous regardait les uns après les autres d'un petit air de pitié narquoise. Quant à moi, je m'étais réfugié sur une des échelles extérieures et j'étais assis sur l'une des dernières marches. Je regardais avec stupeur l'écume rouge qui bouillonnait au-dessous de moi et dont quelques flocons sautaient jusqu'à mon visage, et je me disais « Voilà donc où il faudra périr à 18 ans !» car j'étais bien décidé à me laisser noyer plutôt que griller. La flamme se voûtait au-dessus de moi, et je distinguais bien son hurlement de celui des vagues. Non loin de moi, sur la même échelle, était assise une petite vieille, quelque cuisinière, probablement, d'une des familles qui était embarquée pour l'Europe. La tête enfoncée dans ses mains, elle semblait murmurer des prières. Tout à coup, elle jeta sur moi un regard rapide, et soit qu'elle crut lire sur mon visage une détermination funeste, soit par toute autre raison, elle saisit mon bras et d'une voix presque suppliante, elle me dit avec insistance « Non, Barine, personne n'a le droit de disposer de sa propre vie, vous pas plus qu'un autre. Il faut subir le sort que la Providence vous envoie. Sans cela, ce serait un suicide, et vous seriez puni dans l'autre monde. » Je n'avais eu aucune envie de me suicider. Mais, par une sorte de bravade bien inexplicable dans ma position, je fis deux ou trois fois semblant de mettre à exécution l'intention qu'elle me prêtait. Et chaque fois, la pauvre vieille se précipitait vers moi pour m'empêcher d'accomplir ce qui était à ses yeux un grand crime. À la fin, saisie d'une sorte de honte, je m'arrêtais. En effet, pourquoi jouer ainsi la comédie en présence d'une mort qu'en ce moment je croyais vraiment imminente et inévitable? Du reste, je n'eus pas le temps de me rendre compte de cette bizarrerie des sentiments, ni d'admirer le manque d'égoïsme, ce qu'on nommerait aujourd'hui l'altruisme de la pauvre femme. Car dans ce moment, les hurlements des flammes au-dessus de nos têtes redoublèrent de violence. Mais dans ce même moment aussi, une voix d'airain, ce fut celle de notre ange sauveur, une voix éclata au-dessus de nous. « Que faites-vous là, malheureux? Vous allez périr! Suivez-moi !» Et aussitôt, sans savoir qui nous appelait ni où il fallait aller, nous nous levâmes, la bonne femme et moi, comme poussés par un ressort, et nous nous lançâmes à travers la fumée à la suite d'un matelot en veste bleue que nous voyions devant nous grimper le long d'une échelle de corde. Sans savoir pourquoi, je grimpai derrière lui sur cette échelle. Je crois que dans ce moment, s'il s'était jeté à l'eau ou s'il avait fait n'importe quoi d'extraordinaire, je l'aurais aveuglément imité. Après avoir gravi deux ou trois échelons, le matelot sauta lourdement sur le haut d'une des voitures dont le bas commençait déjà à flamber. Je sautai après lui. J'entendis la vieille sauter après moi. Puis, du haut de cette première voiture, le matelot sauta sur une seconde voiture, puis sur une troisième, moi toujours derrière lui, et nous nous trouvâmes ainsi sur le devant du vaisseau. Presque tous les passagers étaient rassemblés là. Des matelots, sous la surveillance du capitaine, étaient occupés à descendre à la mer une de nos deux chaloupes, heureusement la plus grande. Par-dessus l'autre bord du navire, j'aperçus, vivement éclairée par l'incendie, la falaise abrupte qui descend vers Lübeck. Il y avait certainement près de 2 kilomètres jusqu'à cette falaise. Je ne savais pas nager. L'endroit sur lequel nous étions échoués, car nous l'étions sans nous en être doutés, était probablement assez peu profond, mais les vagues étaient très hautes. Pourtant, dès que j'eus aperçu la falaise, la persuasion que j'étais sauvée s'empara de moi, et, à la stupéfaction des personnes qui m'entouraient, je fis plusieurs bonds en l'air en criant « Hip hip hip, hurrah !» Je ne voulus pas m'approcher de l'endroit où la foule se pressait pour arriver à l'escalier qui menait à la grande chaloupe. Il y avait là trop de femmes, de vieillards et d'enfants. Et puis, moi, depuis la vue de la falaise, je ne me pressais plus, j'étais sûre de mon salut. Je remarquai avec étonnement que presque aucun des enfants n'avait peur, que quelques-uns même s'endormaient sur l'épaule de leur mère. Aucun ne périt. J'aperçus au milieu du groupe des passagers un général de haute taille, les vêtements tout ruisselants d'eau, qui se tenait immobile, appuyé contre un banc placé horizontalement qu'il venait de détacher du vaisseau. J'appris que dans un premier moment de terreur, il avait brutalement repoussé une femme qui voulait passer avant lui pour sauter dans une des premières embarcations qui avait sombré. Saisi par un steward qu'il avait rejeté sur le vaisseau, le vieux soldat eut honte de sa couardise momentanée et il se jura de ne quitter le navire que le dernier, après le capitaine. Il était de grande taille, pâle, avec une écorchure sanglante au front, et promenait autour de lui des regards contrits et résignés, comme s'il eût demandé pardon. Pendant ce temps, je m'étais approché du côté gauche du vaisseau et j'aperçus notre petite chaloupe dansant sur les vagues comme un joujou. Deux matelots qui s'y trouvaient faisaient signe aux passagers de risquer le saut. Mais ce n'était pas chose facile. Le Nicolas Ier était un vapeur de haut bord et il fallait tomber bien d'aplomb pour ne pas faire chavirer la chaloupe. Enfin, je me décidai. Je commençai par poser mes pieds sur une chaîne d'ancre qui était tendue le long du bâtiment à l'extérieur et j'allais m'élancer quand une masse lourde et molle vint s'abattre sur moi. Une femme s'était cramponnée à mon cou et pendait inerte le long de mon corps. J'avoue que mon premier mouvement fut de m'emparer violemment de cette main et de me débarrasser de cette masse en la jetant par-dessus ma tête. Mais fort heureusement, je ne suivis pas ce premier mouvement-là. Le choc faillit nous précipiter tous les deux dans la mer, mais par bonheur, il se trouva là, flottant devant mon nez, pendant de je ne sais où, un bout de corde auquel je m'accrochais d'une main avec rage, m'écorchant jusqu'au sang. Puis, jetant un regard au-dessous de moi, je m'aperçus que moi et mon fardeau, nous nous trouvions juste au-dessus de la chaloupe. Et, à la grâce de Dieu, je me laissai glisser. Le bateau craqua dans toutes ses jointures. « Ouah !» crièrent les matelots. Je déposai ma compagne évanouie au fond du bateau, et me retournai aussitôt vers le navire, où j'aperçus une quantité de têtes, de femmes surtout, qui se pressaient fiévreusement le long du bord. « Sautez !» m'écriai-je en tendant les bras. Dans cet instant, la réussite de ma hardiesse, la conviction d'être isolée des flammes, me donnait une force et un courage indicibles. Et je reçus les trois seules femmes qui se décidèrent à sauter dans ma chaloupe, avec autant de facilité que l'on attrape des pommes au temps de la cueillette. Il est à remarquer que chacune de ces dames poussa un cri perçant au moment de se jeter du haut du navire et, arrivée au bas, était évanouie. Un monsieur, probablement affolé, faillit tuer une de ces malheureuses en jetant une lourde cassette qui se brisa en tombant dans notre bateau et laissa voir un assez riche nécessaire. Sans me demander si j'avais le droit d'en disposer, je fis immédiatement présent de cette cassette aux deux matelots, qui la reçurent avec tout aussi peu de scrupules. Puis, aussitôt, nous fîmes force de rame vers le rivage, accompagnés de cris. « Revenez vite ! Renvoyez-nous la chaloupe !» Aussi, dès qu'il n'y eut plus qu'un mètre de profondeur d'eau, fallut-il descendre. Une pluie fine et froide s'était mise à tomber depuis une heure, sans avoir aucun effet sur l'incendie, mais elle nous trempa définitivement jusqu'aux os. Enfin, nous parvînmes à ce bienheureux rivage, qui n'était qu'une vaste mare de boue liquide et gluante, où l'on enfonçait jusqu'aux genoux. Notre barque s'éloigna rapidement et se mit, ainsi que la grande chaloupe, à faire la navette du navire au rivage. Peu de voyageurs avaient péri, 8 en tout. L'un était tombé dans la soute au charbon, un autre s'était noyé pour avoir voulu emporter tout son argent sur lui. Ce dernier, dont je savais à peine le nom, avait joué aux échecs avec moi pendant une grande partie de la journée, et il y avait mis un tel acharnement que le prince W, qui suivait notre partie, finit par s'écrier « On dirait que vous jouez comme s'il s'agissait entre vous de vie ou de mort. » Quant aux bagages, ils furent presque tous perdus, ainsi que les voitures. Dans le nombre des dames échappées du naufrage, il y en avait une, Madame T, fort jolie et fort aimable, mais encombrée de ses quatre petites filles avec leurs bonnes. Aussi restait-elle abandonnée sur la plage, les pieds nus, les épaules à peine couvertes. Je crus devoir faire mon galant chevalier, ce qui me coûta mon veston, que j'avais conservé jusque-là, ma cravate et même mes bottes. En outre, un paysan avec une charrette attelée de deux chevaux, que j'avais été chercher en haut de la falaise et que j'avais envoyé en avant à la rencontre des naufragés, ne jugea pas à propos de m'attendre et partit pour Lübeck avec toutes mes voyageuses, de sorte que je restai seule, à demi-nue, trempée jusqu'aux os, en présence de la mer, où notre vaisseau achevait lentement de se consumer. Je dis bien « achevait », car jamais je n'aurais cru qu'une aussi grande machine pût être aussi rapidement détruite. Ce n'était plus qu'une large tache flamboyante, posée immobile sur la mer, sillonnée par les contours noirs des cheminées et des mâts, et que des mouettes parcouraient d'un vol lourd et indifférent. Puis un grand panache de cendres parsemé de petites étincelles qui s'éparpillaient en vastes lignes courbes sur les flots déjà moins agités. « N'est-ce que cela ? » pensais-je. « Et toute notre vie n'est-elle qu'une pincée de cendres qui se disperse au vent ?» Heureusement pour le philosophe qui commençait à claquer des dents, un autre charretier vint me ramasser. Le brave homme se fit payer 2 ducats, mais en compensation, il m'enveloppa de sa grosse houppelande et me chanta 2 ou 3 chansons, mes clangues bourgeoises, qui me parurent assez jolies. C'est ainsi que je gagnai Lübeck au lever du soleil. J'y retrouvai mes compagnons d'infortune et nous partîmes pour Hambourg. Là, nous trouvâmes 20 000 roubles argent que l'empereur Nicolas, précisément alors de passage à Berlin, nous avait envoyé par un aide de camp. Tous les hommes se réunirent et il fut décidé que cette somme serait offerte aux voyageuses. Ceci nous était d'autant plus facile qu'à cette époque, tout Russe venant en Allemagne y jouissait d'un crédit illimité. Il n'en est plus de même maintenant. Le matelot auquel j'avais promis au nom de ma mère des sommes exorbitantes s'il me sauvait la vie, vint réclamer l'exécution de ma promesse. Mais comme je n'étais pas bien sûr de son identité, et que d'ailleurs celui-là n'avait rien du tout fait pour moi, je lui offris 1 thaler qu'il accepta avec reconnaissance. Quant à la pauvre vieille cuisinière qui avait témoigné tant d'intérêt pour le salut de mon âme, je ne l'ai plus revue. Mais pour celle-là, rôtie ou noyée, je suis bien sûr qu'elle a sa place marquée au paradis.